Weird.
Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Après avoir dit qu'il était violent, radical, maintenant, nouveau qualificatif de Paul Saint-Pierre Plamondon, il serait soupaulé, c'est ce que Bernard Drainville a dit de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je sais pas s'il est soupaulé, on va pouvoir creuser la question tout à l'heure avec Luc Lavoie, mais la question que je me demande, c'est pourquoi ce changement de ton de Paul Saint-Pierre Plamondon? C'était le gars qui était gentil, bienveillant, qui allait pas dans les extrêmes, qui était dans la politique positive, qui voulait faire la politique autrement. Les Québécois ont embarqué dans ce style-là. Ils ont aimé ce style-là, beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, beaucoup plus terre à terre. Puis là, on dirait que il se dit, je vais essayer autre chose. Là. Maintenant que j'ai les intentions de vote, je vais revenir à ce que les politiciens font d'habitude. Des déclarations plus extrêmes les unes que les autres. Il a parlé de déportation, puis d'extermination, puis de... Voyons donc. Paul Saint-Pierre Plamondon, son secret, ça a été son sourire, son calme. Pourquoi il change une recette qui fonctionne? Aucune idée. Bienvenue à Cube et bienvenue à votre nouvel épisode.
Vous avez vu un grand spectacle?
On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdel-Fadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel.
Luc, toi, t'es-tu soupaulé?
Ça m'arrive.
Un petit peu?
Ça m'arrive parfois, oui.
De temps en temps?
Des fois, il y a une switch qui saute.
Mais là, Paul Saint-Pierre Plamondon, Bernard Drainville, ton ami Bernard, qui dit qu'il est soupaulé. Après que Marc Tanguay ait dit que c'est un radical et qu'est-ce que t'en penses?
Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Je parle. Bon, il y a l'épisode d'hier. Là. Hier, il est devant comment on appelle ça, les crédits, l'étude des crédits, puis c'est le conseil exécutif, donc le premier ministre. Et là, il commence à lui poser des questions qui portaient essentiellement.
Allez-vous voter oui ou non?
Oui, allez-vous voter oui ou non?
Au référendum.
Bon, à chaque fois, Legault avait trouvé un texte de Paul Saint-Pierre Plamondon, à l'époque où il était candidat au leadership, donc vers 2016 dans ce coin-là, puis il en relisait un bout à chaque fois. J'avoue que là-dessus, M. Legault était habile.
Tu sais, il était bon.
Il mordait pas, il faisait rien.
Mais
l'autre,
non.
L'autre se montait tout seul, puis à un moment donné, il en pouvait plus de pas avoir les réponses qu'il souhaitait. Il s'est levé de façon très brusque, puis boum, il est parti. Bon, là tu te dis, bon, est-ce que c'est le même là, qui nous a sorti l'affaire des exécutions.
Puis des déportations.
Des déportations.
1835 et 1755?
1837.
Le 37 et 1755?
Voilà. Alors, et moi, j'ai pas compris. Tu l'as bien dit en ouverture, là. Paul Saint-Pierre Plamondon a monté dans les sondages. C'est comme une sorte de surprise pour tous. Tout d'un coup, depuis la dernière élection. Et on voyait qu'une des raisons, c'est mon cas. Je n'avais pas de respect particulier pour ce gars-là.
Ben non, je me rappelle comment tu l'appelais avant.
Oui, je l'avais appelé le petit gars en culotte courte.
C'était le surnom que tu lui donnais.
Ouais,
t'es pas gentil. C'était un peu soupaulé.
C'était pas gentil. C'était pas soupaulé non plus.
C'est un peu radical. Un peu
j'aime
violent.
J'aime la soupe à l'orge.
T'es plus minestrone que soupaulé.
Alors, il a tilté. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il est parti avec des propos comme ceux-là. Hier... Mon collègue que j'aime bien, Richard Martineau, a souligné le fait que moi, j'avais parlé de Milosevic, l'ancien chef des Serbes, maintenant décédé en prison d'ailleurs.
Oui, sanguinaire.
Oui. Alors, j'allais revoir mon histoire. 1389, au Kosovo, sur ce qu'on appelle les plaines du Kosovo, Il y a eu une bataille célèbre qui a opposé l'Empire ottoman à une sorte de regroupement des soldats des diverses principautés chrétiennes. Mm-hmm. Et les Ottomans ont gagné, ça a fait en sorte qu'ils ont dominé en bonne partie les Balkans pendant des siècles. Alors, 1989, au moment où le régime soviétique commence à s'effondrer, en Yougoslavie, c'est un apparatchik du Parti communiste, Milosevic, qui, quand il a vu ça tourner de bord, bon, il est devenu comme un ultranationaliste, et il a tenu un discours sur les plaines en question où il y avait des centaines de milliers de personnes, et il leur a dit que le temps était venu de venger la défaite de 1389 et qu'il fallait, s'il fallait aller plus loin, il irait plus loin. Et de cela est née une guerre. Je veux dire, mais qu'est-ce qui a pris 1389? Alors, ça m'a rappelé que j'avais des relations amicales avec le seul et unique Pierre Falardeau, qui me faisait beaucoup rire quand il était en bonne forme, mais qui, sur le plan politique, était vraiment à 100 000 milles de moi, là. Mais Pierre Falardeau, à un moment donné, je jasais avec lui, puis je disais, ben oui, mais arrête de parler des Anglais, puis c'est puis c'est ça, puis tout ça. Il dit, hey! C'est eux autres qui ont brûlé nos maisons puis qui ont violé nos femmes.
Là, tu, où ça?
1837-1838. Mais tu sais, alors le pays, le Canada, qui a fait ci, qui a fait ça, qui était terrible contre les francophones, le pays a changé.
Mais revenons, Luc, à Paul Saint-Pierre Plamondon.
Qu'est-ce qu'il lui a pris?
Est-ce que c'est de l'arrogance? Est-ce que les intentions de vote lui sont montées à la tête? Parce qu'on entend ça aussi.
Oui.
Ou est-ce
je pense que oui. Et je pense qu'il fait un mauvais calcul de penser qu'en bulldozant comme ça, ça va continuer à monter. Ce qu'il est en train de réussir, ou qu'il était en train de réussir jusqu'à ces incidents-là, c'était amener au bercail du PQ les indépendantistes, les séparatistes du Québec qui se tiennent toujours dans le 35% à peu près.
Mais là, si c'est juste des sondages, on s'était fait là sur lui, une vraie victoire ferait quoi?
J'ose espérer que ce Paul Saint-Pierre Plamondon va redevenir ce qu'il était, quelqu'un qui amenait de la civilité dans le débat politique, quelqu'un qui était poli, quelqu'un qui...
Un gentleman, là!
Oui, oui, un vrai gentleman.
Un gentilhomme, parce qu'il faut tout franciser quand on parle du PQ.
Gentleman. Gentleman cambrioleur. C'est le plus grand des voleurs.
Hey, il n'est pas voleur.
Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Non, alors, on revient.
Bienvenue à Cube Radio Musicale.
Alors, ça va lui coller aux fesses, cette déclaration du week-end. Là,
aux culottes?
Ouais, ben tu sais, 1755, coudonc, là je vais parler comme chez nous, coudonc baptême. on va remonter jusqu'où exactement?
Mais il faut qu'il retrouve, peut-être qu'il est fatigué, il faudrait qu'il retrouve...
Moi, j'ai eu l'idée suivante, excuse-moi, mais je me suis posé la question... On sait, puis il n'en avait pas fait de secret, qu'il était très ébranlé par des menaces de mort contre lui et sa famille.
Oui, on l'a vu pleurer.
Il y a eu même des larmes, bon. On dirait qu'il a changé. Est-ce que ça l'a ébranlé beaucoup? Est-ce que ça l'a rendu plus je sais pas, moi...
Sensible?
Sensible, fonceur, dépêchons-nous, on n'a pas de temps à perdre, on peut se faire tuer. J'exagère à peine, là, je me demande si ça l'a affecté. Parce que...
Ben, c'est sûr que ça a affecté quiconque.
J'ai eu le bonheur de rencontrer Paul Saint-Pierre Plamondon, puis de souper avec lui, puis de...
Tu m'as pas dit ça?
Il y a des affaires que je te dis
pas. Tu m'as pas dit ça, Luc Lavoie?
Il y a des affaires que je te dis
et
pas.
Et où est-ce que vous êtes allé? Moi, j'aime ça, savoir à quel resto.
La Médusa, c'est toujours là.
Ah, ben oui.
Toujours là. C'est
toujours là, c'est
secondaire.
Ton spot.
Alors, j'avais donc trouvé devant moi celui qu'on avait découvert pendant la campagne électorale, c'est-à-dire un gentleman, un gars avec un excellent sens de l'humour, ce qui, d'après moi, est une chose très positive, un gars attentionné, un homme de famille, des manières exquises. Puis là, il nous arrive avec cette histoire-là. Il penses-tu vraiment là, qu'il y a des Québécois? Là, bon, il y a une gang de séparatistes, c'est ce qu'ils aiment, mais il les a déjà avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il prend de faire ça?
Ils vont voter pour lui anyway, là.
Il penses-tu, lui, que il y a des gens là, qui étaient sur le bord de commencer à songer, à dire « Ouais, je pense qu'on va revenir à l'idée de l'indépendance. » Il y a-tu bien du monde qui va suivre ça? Voyons donc. Regarde, pourquoi vous faites ce que vous faites? Ben, c'est parce que il est arrivé ceci des Acadiens, puis il est arrivé cela des Patriotes, puis il est... Écoute, il est arrivé cela...
Lord Durham, là!
Puis Lord Durham, évidemment, là, écoute...
Bataille des plaines d'Abraham!
Ben oui, qu'est-ce que t'en fais?
Ben non!
1759!
Un recomptage judiciaire! On avait-tu eu des soldats?
Quel étrange comportement de sa part!
On leur fait un test de dopage, les Anglais?
Je sais pas quoi, la politique québécoise est étrange ces années-ci. Tu vois, M. Legault, il est élu, 2018, il passe sa loi...
21?
Sa loi 21, là, sa patente, son petit package de racistes, il passe ça, puis il présente une nouvelle loi, la loi 96, qui est aussi stupide que la loi 21.
Et moins pire!
Puis va regarder les détails.
Oui, oui, mais et moins pire que 21. Pour moi, 21, c'est comme... pas ouais, mal plus liberticide mais, ouais. que 96.
Ben 96, c'était « Qu'est-ce que c'est que je pourrais-tu faire aux Anglais pour leur montrer que je suis pas content? » Fait que là, tu n'importe quoi. Là, tu peux plus avoir de baptistère en anglais au Québec. Tu peux plus, toutes sortes de niaiseries comme ça. Et est arrivée la pandémie. Et il s'est retrouvé dans le rôle de Papa Legault.
Capitaine Legault, oui.
Capitaine Legault, papa aussi. Il avait quelque chose de père de la nation.
Puis il a bien fait ça.
Il a fait ça très, très bien. C'est en allé en campagne. C'était une campagne électorale. Correct, là. Il l'a gagné. Il a quand même gagné 90 sièges.
Puis avec des déclarations épouvantables.
Soudainement, il s'est mis à creuser son trou. Puis on dirait qu'il n'arrête pas. Il y a juste hier, je l'ai trouvé fort amusant.
Au crédit?
Oui, il était très amusant. Mais tu sais, c'est le gars qui disait... Ben, j'ai de la peine. C'est les sondages qui faisaient dire ça.
Troisième lien.
Oh, mon troisième lien. Écoute, j'ai compris le message. On recommence le troisième lien demain matin.
Des pommes, des bananes, puis des oranges.
Voilà.
Ah, oh, qu'est-ce qu'on ferait
alors,
son...
Alors, il semble bien que Saint-Pierre Plamondon, il est comme tout le monde.
Il passe par le blues de la fin de l'hiver.
Puis, ah oui, on a oublié de le mentionner, là, la photo qui circule. Il a fait prendre une photo de lui-même avec comme un plat à soupe, une cuillère, puis il est en train de boire
du lait. Là, on le voit dans l'image.
Ah oui.
Avec un bol, puis du lait, puis il dit, puisqu'on dit que je suis soupe au lait.
Puis, il a pas pris de chance, c'est du Québon.
Eh bien, oui, c'est clair qu'il prenait du Québon.
Il était quand même pas pour prendre des affaires.
Mais je suis particulièrement surprise.
Du lait d'anglais, tu pensais à ça? Du lait d'anglais, ça peut t'étouffer, ça?
Dès qu'il est fait de l'autre bord de la rivière des Outaouais,
voilà.
C'est un complot, ils nous ont mis du cyanure à l'intérieur.
Mais ça va lui nuire ce qu'il a fait là, Saint-Pierre Plamondon. Ça vient...
J'ai hâte au prochain sondage.
Ouais, ça va prendre deux sondages avant de voir vraiment.
Non, mais juste voir si ça bouge.
D'après moi, ça bouge plus beaucoup, mais on a été tellement surpris depuis l'élection et de 2022 que, bon, il faut bien admettre que... Alors, c'est comme ça que va la vie. Nous sommes des victimes. Nous sommes enchaînés. Regardez ce peuple enchaîné qui se promène sur la rue avec les chaînes aux pieds. C'est ça, le Québec, n'est-ce pas? Qui a l'attelé pour les chaînes? Les Anglais!
Luc Lavoie, je t'affranchis de ce studio. Allez en paix, M. Lavoie!
Au revoir, madame!
À bientôt.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Le torchon brûle entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le gouvernement du Québec. Pourquoi? Parce que le gouvernement a décidé de mettre fin, dès le 31 mai prochain, là, à une entente qu'il avait avec la Fédération des médecins omnipraticiens qui visait à permettre à plus de patients d'être pris en charge par des médecins de famille. On va essayer de comprendre tout ça puis démystifier cette chicane, peut-être qu'elle n'en est même pas une, avec Dr Marc-André Amyot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Bonjour, Dr Amyot.
Bonjour.
C'est quoi qui se passe entre vous puis le gouvernement du Québec? Vous aviez une entente, elle arrive à échéance le 31 mai, elle ne va pas être renouvelée, du moins, on n'est pas là-dedans pour le moment. Pourquoi?
Je peux pas vous dire pourquoi, parce qu'on comprend pas, mais je peux vous expliquer
Oui.
l'entente et l'orientation des partis quand on a signé cette entente-là il y a 2 ans. Il y avait des problèmes d'accès pour un certain nombre de patients au Québec, les patients orphelins. Il y en avait beaucoup. Ils se retrouvaient à l'urgence. Ils avaient de la difficulté à consulter. On a dit, les médecins de famille, on peut tenter d'améliorer l'accès, mais on va avoir besoin de réorganiser nos pratiques. On pourra plus faire les mêmes choses de la même façon puis espérer un résultat différent. Et on souhaite également que ce qui peut être réglé par d'autres professionnels soit réglé par d'autres professionnels. Et là, on a convenu d'une entente. Le gouvernement a mis en place les GAP, les guichets d'accès à la première ligne, et l'entente prévoyait que les médecins de famille inscriraient collectivement des patients. Parce que inscrire individuellement, là, un patient, un médecin de famille, ça, c'est mission impossible au Québec. La pénurie de médecins de famille est trop grande. Mais on a dit un groupe de médecins et les infirmières, physiothérapeutes, travailleurs sociaux, autres professionnels qui travaillent avec eux, on peut prendre en charge un groupe de patients. On aimerait qu'ils puissent transiter et qu'ils soient triés par une infirmière qui, elle, va évaluer le besoin et va référer le patient soit à un autre professionnel, soit à une infirmière, un pharmacien, ou soit à un médecin. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'inscription collective.
Mais là, quand le médecin prend en charge, il touche 120 $.
Non, non, mais attendez un petit peu, là, je vous explique. On a pris 1 million de patients comme ça en inscription collective et cette entente-là prévoyait, oui, une fin au 31 mai, mais une transition vers un nouveau modèle d'organisation puis un nouveau modèle de rémunération, plus vers la capitation. Et c'est là où le 120 $ arrive. Qu'est-ce que c'est le 120 $? Ben, c'est une étape vers la capitation. C'est ce qui est utilisé en Ontario puis dans d'autres provinces aussi, là. Mais nos voisins, la majeure partie de la rémunération des médecins se fait sous forme de capitation. On verse un forfait aux médecins pour qu'ils puissent s'organiser. Qu'est-ce que les médecins ont fait depuis 2 ans? Ils ont embauché des infirmières, ils ont embauché d'autres professionnels et ça leur permet de déléguer à ces infirmières-là ce qui peut être fait par ces autres professionnels-là. On travaille en collaboration et ça dégage des plages spécifiquement médicales. Donc,
Je comprends,
ce
je comprends.
montant-là.
Je comprends, docteur Amiot. Toujours est-il qu'aujourd'hui, puis on l'a vu avec André Fortin qui en a fait la preuve éloquente en commission parlementaire, c'est pas vrai que l'accès à un médecin ou à un groupe qui nous a pris en charge se fait. C'est pas parce qu'on est inscrit, par exemple, un groupe de professionnels de la santé qu'on a accès réellement en cas de besoin. Vous répondez quoi à ces André Fortin qui en a par centaines de milliers au Québec, qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous avec leur médecin ou leur professionnel de santé attitré?
Ben, moi, je veux qu'on distingue 2 choses. La première, les médecins de famille ont pris en charge collectivement 1 million de Québécois et ils ont donné les rendez-vous, 1 million de rendez-vous au GAP. Et c'est le GAP qui utilise, après avoir trié le patient et orienté vers d'autres professionnels, puis là, on s'est rendu compte que finalement, les autres trajectoires avec d'autres professionnels, les dentistes, les optométristes, les physiothérapeutes, ils n'ont pas été développés autant qu'on aurait souhaité. Souvent, c'est un téléphone au GAP, un rendez-vous médical.
Mais
pas
je
ça
comprends.
Initialement.
Mais ma question.
Mais ce que je veux vous dire, ce que je veux, la réponse à votre question, c'est distinguer la disponibilité du docteur de la machine et du GAP qui, elle, est responsable. Si ça prend une semaine au GAP avant de rappeler le patient, ne tenez pas les médecins de famille responsables.
Je comprends.
Nous, on a dit, on vous les donne ces rendez-vous-là, remplissez-les. Et là, vous allez m'arriver avec l'argument, oui, mais il y a certains patients inscrits collectivement qui n'ont pas eu besoin de consultation l'année dernière. Là, vous payez quand même. Alors
ben,
ça, là, ça fait que, attendez, ça, j'ai la réponse. Nous, on a dit au GAP, vous pouvez utiliser ces rendez-vous-là pour mettre des patients qui sont orphelins, qui n'ont pas été inscrits collectivement. Maximiser le plus possible tous ces rendez-vous-là, ils ont été utilisés à 99% ces rendez-vous-là, mais on les donne aux GAP. Puis ça, là, c'est 1 million de rendez-vous supplémentaires qu'on a donné à la population. Ça serait pire que ça aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette entente-là.
Mais Dr Amiot, vous êtes aussi l'organisation qui a envoyé une mise en demeure au ministère de la Santé il y a quelques semaines parce qu'on vous serrait la vis pour que vous puissiez prendre 13 000 patients aussi. C'est aussi ça la réalité. Alors nous, on est en train d'essayer comme patient, qui patiente, là, du verbe patienter et pas du verbe être un patient médical. Nous, on est là, on regarde tout ça, on cherche des rendez-vous, on est connecté à 6 heures le matin, 7 heures le matin. Ton enfant a une otite? Va à l'urgence, tu vas avoir plus de chances de voir un médecin que si tu attends devant le gars pour avoir un rendez-vous.
Non, je comprends, mais là, encore une fois, distinguez bien la disponibilité des docteurs versus la disponibilité du GAP pour prendre l'appel, prendre les coordonnées, les rendez-vous et les orienter. Moi, là, j'ai des médecins qui me disent, et des patients qui voient les médecins qui disent, ça a pris une semaine avant que le GAP me rappelle. Et j'ai des médecins qui disent, ce patient-là, il aurait pu être vu par une infirmière. Il y a certaines régions qui ont développé des trajectoires de soins, mais pas partout. On n'a pas encore optimisé à sa pleine valeur tous ces rendez-vous-là puis tout ce gap-là. C'est pour ça qu'il faut pas y mettre fin à cette entente-là.
Mais
c'est pour ça que ça prend un pont. Et là, nous, il y a 2 ans, là, on a dit au gouvernement, parfait, assoyons-nous dès maintenant pour revoir le modèle d'organisation puis revoir le modèle de rémunération pour que dans 2 ans, on soit prêt à mettre ça en place. Notre entente se termine. Là, pour toutes sortes de raisons.
Puis, mais, Dr Amiot, là, vous avez dit que vous avez pris 1 million de nouveaux patients, c'est ce que vous, depuis, avez touché la prime, en fait, les médecins ont touché cette prime.
C'est pas une prime, c'est un forfait de responsabilité. Enlevons-nous ça, là, la notion de prime.
Ben, peu importe comment vous l'appelez, là, dans le mémoire collectif, là, cet argent-là, ce montant-là, il a été touché.
Oui.
Ces patients-là continuent de faire partie des patients que vous avez sous votre responsabilité comme groupe. Pourquoi tenir à ce que cette entente-là soit repoussée, en fait, son échéance soit repoussée, puisque ces patients-là vont continuer à avoir accès à leur professionnel de la santé?
Bien, là, on faisait ça dans le cadre d'une entente, et les médecins de famille, je vous l'ai dit, là, ces montants forfaitaires-là ont été utilisés pour réorganiser leur pratique, embaucher du personnel, embaucher des adjointes administratives. S'ils ont pu, ces montants-là, comment ils vont fonctionner? Comment ils vont travailler davantage en interdisciplinarité? Ils vont devoir voir les patients. Ça va diminuer l'accessibilité. C'est une mauvaise décision. C'est une décision qu'on comprend pas. Puis là, on ne demande pas de prolonger cette entente-là ad vitam aeternam. On demande de prolonger cette entente-là le temps qu'on puisse s'entendre sur un nouveau modèle, sur un renouvellement d'accord cadre et sur un nouveau mode de rémunération. On a besoin d'un pont, de mettre ça, de cesser ça le 31 mai, ça va avoir des effets négatifs pour l'accessibilité à la population. Et ça, là, si vous voulez, des médecins du terrain qui témoignent de ça, on peut vous en référer suffisamment. J'ai aussi des médecins qui sont près de la retraite. Hein? 25% des médecins de famille au Québec ont plus de 60 ans. J'ai plusieurs médecins, dont une là, qui m'écrivait ce matin, qui a 39 ans de pratique. C'est respectable, ça, 39 ans de pratique. Quand un médecin finit de travailler à finit ses études, 26, 27, 28 ans, 29
et 39 ans.
39 ans de pratique. Elle a dit, moi là, j'aurais pris ma retraite, mais je vais vous aider avec le gars. Quand vous enlevez forfait, qu'est-ce que vous pensez qu'elle va faire? J'en ai plusieurs. Diminution d'accessibilité, on revient en arrière. Et toute cette entente-là, c'était un continuum vers un nouveau modèle d'organisation. Pourquoi arrêter ça tout d'un coup? On comprend pas.
Mais comme vous dites, c'est probablement dans le cadre d'une négociation où le ministre, en annonçant la fin de cette entente le 31 mai 2024, il fait avancer un de ses pions sur ce jeu d'échecs et de négociations. Probablement sûr que vous allez finir par arriver avec une entente. Je l'espère, je le souhaite personnellement parce que on a besoin que tout le monde puisse être mobilisé à la pleine valeur. Docteur Marc-André Amiot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Merci beaucoup. Revenez plus souvent nous parler.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Pour une analyse franche et convaincante, Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN. À LCN.
14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine.
Bon après-midi, Julie.
Parlons d'hypothèque halal. C'est la collègue Hélène Buzetti qui a écrit un papier là-dessus, très intéressant, parce que, bon, Ottawa a annoncé dans son budget mardi dernier, cette semaine, qu'il va évaluer la nécessité de changer la réglementation bancaire pour faciliter les hypothèques islamiques. Qu'est-ce que tu en comprends, toi?
Pas grand-chose. Je vais te dire bien honnêtement, Julie, oui. Là, pas grand-chose. Moi, je comprends pas cette obsession du gouvernement. Je suis allée lire dans le budget qu'est-ce qui est écrit. Puis là, on dit le budget 2024 annonce que le gouvernement explore de nouvelles mesures pour élargir l'accès aux produits de financement de rechange comme les prêts hypothécaires islamiques. C'est écrit noir sur blanc dans le budget 2024. Pourquoi chercher à élargir ce type d'hypothèque? Quel est le besoin? Qui a demandé ça? Les personnes qui demandent des manières d'avoir accès à un prêt hypothécaire de rechange pour des raisons religieuses, par exemple, sont largement marginales, même au sein même de leur communauté. Là, ce sont des personnes qui sont infiniment marginales. La communauté musulmane canadienne, là, c'est une communauté qui a des hypothèques conventionnelles, comme vous et moi, qu'on a négociées auprès d'un courtier, auprès d'une banque, d'une institution financière. Et là, j'appelle ça du clientélisme électoraliste, là, parce que peut-être que le gouvernement pense que, en parlant d'élargir ses produits de financement des prêts hypothécaires islamiques, là, qu'il va être capable d'aller rejoindre une communauté musulmane qui est de plus en plus, qui regarde curieusement le gouvernement Trudeau puis qui se dit, ben, qu'est-ce qu'il fait là, tu sais, qui commence à être pas mal sceptique sur son action. Mais il va pas rejoindre ce monde-là. S'il pense qu'avec ses prêts hypothécaires marginaux et absolument ridicules, là, tant qu'à moi, c'est faux, c'est complètement bidon, ça n'a pas lieu d'être. Au Canada, le gouvernement ne devrait pas chercher à élargir l'accès à des prêts hypothécaires à nature religieuse, point barre. Et en passant, devenir propriétaire n'est pas un droit fondamental qu'il va falloir chercher. Si pour des raisons religieuses, on n'a pas accès à la propriété, on ne veut pas avoir accès à des prêts hypothécaires avec des taux d'intérêt, ben reste locataire, c'est tout. Mais le gouvernement n'a pas à rentrer là-dedans tout court.
As-tu l'impression que le Canada finance certaines catégories de gens?
Non, je pense pas que le gouvernement cherche à financer une catégorie de gens. Je pense qu'il veut rendre les règles, y avoir une réglementation plus souple, plus connue pour favoriser l'accès à la propriété chez certaines communautés, mais c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Il faut réglementer ce genre d'initiative privée parce qu'il y a des organisations qui se spécialisent là-dedans. Il faut plonger là-dedans pour s'assurer que toutes les règles économiques, fiscales et financières soient respectées, mais il n'est pas question qu'un gouvernement puisse encourager ça ou contribuer à l'élargissement de ce genre d'initiative absolument marginale.
Parlons des études de crédit, parce que hier, c'était les études de crédit du Conseil exécutif, donc le ministère du premier ministre François Legault. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a quitté de façon précipitée parce que il était, excédé des réponses du premier ministre François Legault, qu'il n'aimait pas. Écoutons la réaction du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville.
Peut-être un petit peu soupaulé. Ben, je sais pas, je pose la question. Il a parfois des réactions épidermiques. Ça arrive, hein, ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé.
Bon, voici la réponse de Paul Saint-Pierre Plamondon sur X, la photo qu'il a publiée. Voilà, il est en train de manger, de boire, en fait, avec une cuillère, une soupe au lait.
Mais je trouve ça...
Yasmine, comment tu trouves
ça extraordinaire.
Réponse? Oui.
Moi, je trouve ça extraordinaire. En plus de radical, extrémiste, violent et soupaulé, il peut rajouter drôle dans les qualificatifs qui lui ont été attribués au courant de la semaine. Moi, je trouve que il a fait du judo avec ça, puis c'est bien intéressant. Mais j'ai trouvé ça particulier que ce soit Bernard Drinville qui dise qu'il est soupaulé. On se rappelle que Bernard Drinville, lui aussi, a quitté le Salon Bleu après une interpellation de Marois Risky il y a quelques mois. Là, tu sais, il y a eu exactement le même genre de comportement que Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais c'est vrai qu'on sent que le chef du PQ n'est pas celui qu'on connaissait il y a encore quelques semaines, quelques mois. Il est beaucoup plus... on a l'impression qu'il est fâché. On a l'impression qu'il est moins dans cette atmosphère qu'il caractérisait, là, cette personnalité qu'il caractérisait, posée, bienveillant, calme, positif. Positif, ça, c'était quelque chose qui a beaucoup plu aux Québécois, d'où les intentions de vote. Et on sent qu'il y a comme un changement de ton, un changement de d'ambiance au sein du PQ que plusieurs regardent puis ils trouvent ça bien curieux. Mm-hmm. Je pense que collectivement, qu'on soit souverainiste ou pas, péquiste ou pas, on aimait bien le Paul Saint-Pierre Plamondon qui était souriant, positif et posé. Et on est un peu déçus du Paul Saint-Pierre Plamondon qui est un peu, oui, soupaulé.
Peut-être besoin de vacances aussi.
Oui, je lui souhaite, on en a tous besoin.
Voilà, oui, absolument. Merci beaucoup, Yasmine. Bon après-midi à toi.
Pour une analyse franche et convaincante, Yasmine Abdel-Fadel.
On parle avec Dan McTeague, président de l'Association des Canadiens pour l'énergie abordable, parce qu'on est plusieurs à avoir eu une mini-crise cardiaque, infarctus du myocarde, appelez-le comme vous voulez ce matin. Si, comme moi, vous êtes de ceux qui attendez que la lumière est à veille de manquer de lumière tellement qu'elle est allumée dans votre voiture avant d'aller mettre du gaz, ben aujourd'hui, ça nous apprendra, ça m'apprendra. Les prix de l'essence ont bondi, passant à plus de 1,90$. Sous le litre, imaginez. Hier, ça s'affichait plutôt à 1,75 $ seulement. Bonjour, M. McTeague.
Bonjour. Moins qu'on passe par une station de service. Comme ça, ça ne sera pas une très bonne journée.
Non, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui justifie qu'en moins de 24 heures, là, on passe de 1,75 à 1,92, même un peu plus dans certaines régions du Québec?
Écoute, je ne suis pas porte-parole des raffineries, mais je dois dire que toute honnêteté que c'est toujours le cas. Vers la deuxième ou troisième semaine d'avril, on a une journée dans laquelle les prix montent pour refléter le changement dans le type d'essence qui est utilisé. Et donc, les réglementations ici au Canada et comme aux États-Unis exigent aux raffineurs de changer la formulation de leurs produits afin de protéger l'environnement et d'assurer le bon entretien de la voiture. C'est parce que c'est les produits qui sont utilisés du 15 avril au 15 septembre pour les conduites hivernales, les produits pour l'été, prend beaucoup de produits comme le, on appelle ça alkylite. Les alkylites sont très dispendieux. Tandis qu'en hiver, c'est le butane qui est pas très cher, mais qui est mieux pour déclencher les voitures, pour les moteurs.
Mais la question qu'on se pose, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a toujours des bonnes raisons pour justifier des hausses de prix à la pompe. Là. T'sais, toutes les raisons sont bonnes. Longue fin de semaine, bizarrement, le jeudi, vendredi, on va voir le prix à la pompe augmenter. Il fait beau, les prix augmentent. Il fait pas beau, les prix augmentent. Quelqu'un a toussé en Iran, les prix augmentent. Quelqu'un a attrapé le rhume au Venezuela, le prix augmente. Toutes les raisons sont bonnes pour aller piger dans nos poches. Qu'est-ce qu'on peut faire? À qui on peut parler pour essayer de regarder quels sont les éléments qui apportent cette disparité-là? Ça n'a pas aucun bon sens, là.
J'étais dans ce domaine ici durant une vingtaine d'années, donc je connais très bien les raisons. Et préalable à les augmentations, je peux facilement les prédire. C'est pas toujours le cas. Je peux pas prédire quel détail on va faire avec leur marge de profit de 4 à 10 cents de litre, mais je peux facilement voir, et la grande majorité des gens peut voir que le valeur du droit canadien, les changements de réglementation qui sont exigés par les gouvernements, ainsi que les prix du brut et les prix au gros, surtout sur les marchés comme à New York pour l'essence, sont là. Et c'est facile à faire le calcul pour savoir d'ici deux jours où vont aller les prix. Ce sont pas vraiment des excuses, mais j'ai vu parfois où il y a des excuses qui ne méritent pas à être répétées. Donc, je prends l'avantage de toujours mettre avec les personnes qui me suivent à gaswizard.ca pour assurer que s'il y a une excuse bidon pour repousser ces commentaires. Mais la question ici, c'est simplement une question de qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le brut monte, non seulement le taux d'approvisionnement, mais aussi la demande est très élevée aux États-Unis. Oui, on a des questions géopolitiques qui poussent le brut envers 45 $ le baril pour le WTI, mais on a vu après lundi, mardi, que les prix du brut ont baissé. Et c'est pour ça que demain, nous allons voir un recul dans les prix d'essence de 5 cents le litre. Donc, bien que ce n'est pas 14 cents, comme on a vu augmenter, 4-5 cents de recul demain et peut-être encore les prix vont baisser au gros par un sou dès samedi.
Pourquoi ça monte drastiquement et ça diminue tranquillement?
C'est une très bonne question, mais les prix que je vois, que ce soit les prix qui reflètent à New York, que ce soit Ontario, que ce soit Québec, ou que ce soit même dans l'Est, les provinces où on a des prix réglementés, ils suivent fidèlement 24 heures après, et d'habitude les prix à la pompe 48 heures après, comme aujourd'hui, je vois que les prix d'essence sont descendus sur le marché à New York par 2 $ environ, 2 cents le gallon. Ça va nous donner, nous permettre d'avoir une diminution de 1 cent de litre. Nos stations-service prennent, ce sont des organisations qui ne font pas le prix, mais ils acceptent le prix. Et d'ici 2 jours, les prix vont changer. Il y a parfois des stations-service qui vont pas bouger, qui ne vont pas augmenter les prix ni les faire baisser. Ça, c'est une décision de station de service. Mais quand ça vient des prix à la rampe, ces prix sont là, ils sont fixes et d'habitude, ils arrivent 2 jours après que le marché finit ou détermine où les prix vont aller.
C'est quoi les solutions pour nous, là, simples consommateurs, quand on regarde ça puis on est un peu découragé? Est-ce qu'il vaut mieux attendre, le faire pareil, prendre notre mal en patience, économiser ou vendre notre voiture?
Pour avoir des entrevues comme celle-ci. Donc, regarde, mes informations sont là. Je ne suis pas quelqu'un qui est intéressé à être avec les compagnies pétrolières. On n'aime pas Dan McTagg parce que ça fait une vingtaine d'années qu'il préside les prix. C'est des argent, du monnaie qu'ils ont perdu. Hier matin, quand j'ai déclaré, j'ai mis sur les notices que les prix d'essence étaient pour monter par 14 cents de litre préalable à cette phénomène. Je pense que ça, c'est une raison pourquoi l'avantage est toujours pour les consommateurs. Bien que c'est pas un grand avantage, je ne peux pas changer les prix mondiaux, ni les circonstances qui le créent, mais il faut savoir les raisons pourquoi. S'ils sont valables, oui, je vais les supporter. Sinon, je vais déclarer que ce sont des raisons bidons.
J'aimerais vous entendre sur un phénomène plus large. On a vu les voitures électriques de plus en plus sur nos routes. Le gouvernement pousse pour l'adoption des voitures électriques. Et qui dit adoption rapide de la voiture électrique dit une certaine... On déserte les stations-service. Est-ce que les conducteurs qui ont encore une voiture à essence sont en train de payer la marge qu'ont perdu les pétrolières avec ceux qui ont adopté la voiture électrique?
C'est une situation où on voit maintenant, à moins qu'on ait des subventions qui sont données par aux consommateurs, que les voitures électriques ne prennent pas vraiment feu. Je sais, ici en Ontario, c'est surtout le cas. Et bien qu'on est en train de mettre beaucoup d'argent, non seulement pour le réseau, pour l'électricité, pour ces voitures-là, c'est très coûteux et pour la grande majorité des gens, surtout dans les circonstances qu'on se voit hors des grandes villes, c'est pas nécessairement effectif d'avoir une voiture électrique. Sauf que on voit même à cette situation. Moi, j'ai travaillé une dizaine d'années pour la compagnie Toyota. Ça, c'est une compagnie qui va avoir des voitures électriques, mais ils ne seront pas faites avec le lithium. Ça sera fait avec des bougies qui sont faites en anglais, on dit solid state, mais qui sont très différents, aura une distance bien plus élevée que les autres. Ça dépend vraiment des prix.
Mais est-ce que les pétrolières, finalement, pour retrouver la marge de profit qu'ils arrivaient à avoir avec un plus gros volume, vont finalement avoir une marge de profit plus grande sur les conducteurs restants, puisqu'il y en a de moins en moins, et on est appelé à en avoir de moins en moins. En 2035, il n'y aura plus de voitures à essence qui vont être vendues au Québec.
On prévoit que ça, c'est quelque chose de louable du gouvernement. Je ne sais pas si c'est réaliste. Premièrement, c'est le coût. Deuxièmement, on voit déjà qu'il y a une augmentation dans le nombre dans les voitures qui sont achetées en Europe ici. Bien que je pense qu'on va avoir une forte nombre de voitures qui vont avoir qui vont laisser aux conducteurs l'option que ce soit des hybrides, que ce soit d'autres formes d'électrique, mais ce sera pas une ou l'autre, ce sera plusieurs. Et c'est cette diversité en transport restera bien avant que ma vie ici sur la Terre.
Avant de vous laisser aller, Monsieur McTeague, est-ce que on a vu ce matin Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, en chambre à la période de questions, dénoncer la collusion et le cartel des pétrolières? Y croyez-vous, vous, qui suivez ça au quotidien?
Les prix sont faciles à savoir. Pour faire preuve de la collusion, j'ai déjà fait ce trajet-là en 1998. C'est plus la situation et on voit ça avec l'alimentation, l'initiative de l'alimentation. On a très peu d'acteurs. Si on perd davantage d'autres qui sont dans l'industrie, les pétrolières qui sont même pas dans l'espace de vendre l'essence. Beaucoup de compagnies que je vois comme Valero, comme Shell, comme Esso ont déjà vendu leur concessionnaire. Ils sont plus intéressés à vendre l'essence. Ils sont là pour raffiner l'essence. Est-ce qu'il y a une collusion? La collusion est très difficile à faire preuve, mais même avec les modifications sur la loi sur la concurrence, dans laquelle je me suis impliqué il y a une dizaine, vingtaine d'années, quand j'étais député à la Chambre des communes, et je sais qu'il y a beaucoup de membres du Bloc québécois qui me connaissent, même les libéraux, je pense que c'est la raison, c'est facile de dire que c'est une collusion, c'est plus difficile de faire la preuve que c'est vraiment une manque de concurrence.
Dan McTeague, président de l'Association des Canadiens pour l'énergie abordable, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Adèle Fadel, merci infiniment.
Au revoir.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel Fadel.
C'est le jour de la marmotte. Une semaine ne serait pas une semaine sans une bonne grève du transport scolaire quelque part au Québec. Et bien, les chauffeurs d'autobus d'écoliers sont plusieurs d'entre eux sont en grève actuellement, puis le litige porte principalement sur les salaires. On en parle avec José Dubé, président du secteur de transport scolaire à la CSN. Bonjour, Madame Dubé.
Hey, bonjour.
J'ai l'impression de vous avoir parlé il n'y a pas si longtemps pour une autre grève dans une autre région, puis j'ai l'impression que je vais vous poser encore la même question. Pourquoi cette fois-ci, Madame Dubé?
C'est essentiellement et toujours la même chose, la question du salaire. Quand on va régler la reconnaissance de ce métier, l'importance d'y accorder du respect et le salaire qui va avec, peut-être qu'un jour on en entendra un peu moins parler. Il faut expliquer par contre que ça fait plus de 20 ans qu'on se bat pour avoir de bonnes conditions de travail. On est le maillon faible à la fin de l'éducation en fait. Nous sommes les seuls ou presque qui sont payés par le privé. L'argent vient évidemment du gouvernement vers les commissions scolaires et après vers les transporteurs. Mais en bout de ligne, nous on se bat avec des boss, des entrepreneurs qui eux, c'est des compagnies privées qui ont, et leurs compagnies, ben, selon eux, doivent faire le maximum de profit. Ben, où est-ce qu'ils peuvent couper? Où est-ce qu'ils peuvent gérer de façon très serrée? C'est dans les salaires et ça se ressent. Par contre, en 2022, ils ont demandé une bonification de leur contrat parce que, selon eux, ils n'étaient plus capables d'arriver à bien fonctionner et ils avaient besoin aussi d'argent pour payer leurs chauffeurs d'autobus. Le gouvernement a effectivement octroyé des bonifications de contrat. Ils les ont eues, mais maintenant, les grèves explosent de partout parce que quand ça vient le temps de négocier et que ça retombe dans nos poches, ben on se rive souvent face à un mur. L'employeur veut le garder.
Mais vous voulez que l'argent que Québec a donné en bonification de ces contrats-là retombe chez les employés. Est-ce que combien l'argent? C'est combien? On parle de combien d'argent?
Bon, c'est ça. C'est une bonification qui va de 15 à 30. Ils ont eu une bonification des contrats jusqu'à 30. Et non, on ne veut pas l'entièreté de la bonification des contrats. On veut une juste part. Le ministre Drainville, dans une sortie publique, l'a dit que, écoutez, l'argent qui avait été donné, les chauffeurs devaient eux aussi avoir une juste part. Mais maintenant, on se bat pour avoir cette part-là. Vous savez, gagner 25 000 $ par année pour conduire des véhicules lourds avec des enfants, je ne sais pas combien de fois que je devrais le répéter avant que les gens comprennent, mais ce n'est certainement pas assez. On ne transporte pas des matières inertes, on ne transporte pas des boîtes de carton, je le dis souvent, on transporte des enfants. Le transport de personnes, ça se paye. Les enfants embarquent dans nos autobus et jusqu'au temps où on les débarque à l'école, on en est responsable. On
ça
a de grandes responsabilités.
Ça gagne combien ça gagne combien en moyenne par heure, par exemple, un chauffeur d'autobus scolaire ou une chauffeur d'autobus scolaire? Parce que on sait aussi que ce sont des horaires atypiques, là. Tu sais, quand il y a pas, oui. Quand tu es en classe, ben ça travaille pas le soir, fin de semaine. Ça travaille pas, donc il y a vraiment des heures particulières. Alors, c'est combien de l'heure?
Effectivement, c'est des heures coupées, un peu le matin, très, très tôt quand même. Hein? On se met à faire rouler les autobus et à les préparer là aussitôt, souvent que dès 5h30 du matin. Il y a des petits cocos qui peuvent embarquer dans nos autobus selon des grands trajets dès 6h, 6h05. Hein? Et on finit aux alentours de 10h le matin. Et on recommence vers 2h, 2h30 selon, et il y en a qui peuvent aller jusqu'à 6h. On dit que c'est environ 25 heures. Comme les contrats n'ont pas tous la même valeur, on n'est pas tous payés la même chose. Mais je peux vous certifier par contre que des chauffeurs d'autobus qui commencent avec un 16 $, 16 $ et demi, et il faut absolument parler des chauffeurs de berline aussi. Il y a du transport de berline et eux, c'est encore moins cher. Alors, avec toutes ces conditions-là, c'est environ 25 000 $ par année. C'est pas beaucoup, là, avec les grandes responsabilités, il faut le dire.
Mais là, parlons des enfants qui, aujourd'hui, se retrouvent avec cause des grèves sans transport scolaire. Tu sais, quand t'as 12 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu peux prendre ton bicycle puis te rendre à l'école ou t'arranger avec des parents. Mais tu sais, il y a des petits cocos, là, qui dépendent du transport scolaire. Combien d'élèves aujourd'hui sont impactés ou pourraient être impactés par ces grèves-là?
Bien, il y a énormément d'enfants. Si on parle juste de la grève actuellement en Estrie, c'est pas loin de 15 000 enfants. Si on parle de la grève actuellement qui sévit aussi à Montréal, on parle de pas loin de 10 000 enfants. Et ça, on est très, très, très conscient du dommage collatéral que ça donne envers les parents et envers les enfants aussi. Mais il faut rappeler par contre qu'on a la sympathie des parents parce que les parents, ils sont les seuls à être conscients de du travail qu'on fait en fait, qu'on embarque les enfants, qu'on les protège, qu'on les conduit en toute sécurité. On est conscient de l'impact que ça fait. Mais c'est quoi notre seule façon? C'est notre seule façon de se faire entendre. Et puis effectivement, ça fonctionne. On est dans les nouvelles, puis tout ça, ça fait 2 ans et demi là, qu'on entend parler de nous. C'est notre seule façon de se faire entendre et de porter notre voix. Est-ce qu'on pourrait dire, par contre, à l'employeur que c'est peut-être lui aussi qui fait un impact sur les parents en acceptant ces grèves-là et en refusant souvent de négocier et d'allonger sur la table un salaire qui est décent pour ce métier-là?
Madame Dubé, c'est quoi les prochaines étapes? Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Là, il y a des enfants qui rentrent tout seuls sous la pluie à bicycle. Il y a des parents qui sont mal pris et qui doivent sortir du travail plus tôt pour aller chercher leur coco. Parce que souvent, ceux qui prennent le transport scolaire n'ont pas le service de garde de l'école pour permettre à leurs parents de venir après le travail. Ça chamboule une vie familiale. C'est quoi la prochaine étape? Parce que là, ça fait beaucoup de fois qu'il y a ces grèves-là. Vous en êtes rendu où? Puis, est-ce que vous allez nous demander un conciliateur de manière à pouvoir revenir au travail le plus rapidement possible?
Effectivement, ben là, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de conflits, là, fait que je peux pas parler spécifiquement. Oui, les conciliateurs peuvent souvent aider à ce que les deux mettent de l'eau dans leur vin, effectivement, mais là, on parle essentiellement des salaires. tout a explosé. Oui. Nous aussi, on peut pas continuer à faire... Tu sais, vous savez, il y a des compagnies là pour faire ce travail-là. Tu te retrouves avec un 500 $ et 34 brut pour faire ce métier-là. Ça n'a aucun sens. Effectivement, on est très conscient du débordement et du chambardement que ça occasionne. Mais au risque de me répéter, les parents sont vraiment... sont dérangés, mais ils sont conscients, ils sont derrière nous, et je pense qu'ils sont pas mal plus fâchés après les transporteurs qui savent, ils l'ont eu l'argent, ils l'ont revendiqué l'argent. Et j'ose ajouter aussi que en 2022, les transporteurs ont dit même au gouvernement, si vous n'allongez pas l'argent, il y aura pas de transport pour le début septembre. Ils étaient même, eux, prêts à faire la grève de transport s'ils n'obtenaient pas l'argent.
Ben,
alors là,
à
c'est qui les méchants?
Ben,
c'est ça. Puis effectivement, ils ont eu l'argent. On doit donner une juste part aux chauffeurs. Parce que sinon, la rétention, l'attraction, il n'y en aura plus.
Je souhaite une résolution de ce conflit de travail-là
nous
au plus
aussi.
Rapidement possible. Pour les chauffeurs, premièrement, pour les parents ensuite et tous ces enfants qui comptent sur un transport scolaire sûr, fiable et de qualité. Merci beaucoup, José Dubé, président du secteur du transport scolaire à la CSN. Merci beaucoup.
Plaisir beaucoup.
C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche de Mise en onde, aux invités et chroniqueurs. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube. Cube.